Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Vous écoutez Radio Grand Ciel à Dreux, l'émission Ensemble qui donne la parole aux associations. Guy Wagner, à la technique Pierre Ricard. Nous recevons aujourd'hui Mademoiselle Océane Rettner et messieurs Pierre Rigaud et Patrick Coat du Parc de la Clé à Marville-les-Bois, à une quinzaine de kilomètres de Dreux en direction de Châteauneuf-en-Thymerais. C'est la commune de Saint-Sauveur, Marville. Nous allons découvrir la biodiversité et la découverte de la relation de l'homme avec la nature. Vous êtes installé dans une propriété de 4 hectares qui a été créée en 1869. Je dois dire que pour préparer cette émission, nous avons été vous rendre visite et que ce parc est un lieu de paix et de bien-être qui d'ailleurs a pour emblème un cœur avec au centre une clé. C'est l'amour. Je vous laisse la parole pour mieux connaître votre but et votre histoire.
Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Nous sommes évidemment très heureux d'être invités par la radio Grand Ciel pour vous présenter l'association Le Parc de la Clé, dédiée en effet à l'art du jardin et à la nature. Donc cette association a été créée en 2013 par des amis passionnés de jardin. Dans un parc 4 hectares, concédé en gestion par le propriétaire des lieux pour en faire un lieu d'échange et de partage autour du lien avec la nature par le jardin, ce sont plus de 60 bénévoles qui contribuent aux différentes activités. Plus de 3000 visiteurs ont parcouru les lieux chaque année et l'association a pu créer 2 emplois pour l'entretien du parc et organiser des événements et proposer des activités. Je vais donc laisser maintenant la parole à Pierre Rigaud pour qu'il nous décrive en quoi consiste cet espace de biodiversité.
Donc moi je suis Pierre Rigaud, j'assure la communication et également les plantations et les différents aménagements de ce parc. Alors ce parc est typiquement un bourgeois du 19e siècle, donc planté sur 4 hectares clos de murs. Et quand nous l'avons trouvé, il était à l'abandon. Donc il y a eu un grand travail de défrichement, éliminer les arbres morts, dessoucher. Mais tout de suite est imposé à nous le respect de la biodiversité et de la nature telle qu'elle était. Alors on a dégagé un certain nombre d'espaces, à peu près 2 hectares, qui étaient déjà en prairie et en friche. On a créé un premier jardin qui est une roseraie symbolique, dont l'architecture est un carré qui bouge dans un cercle, et dans lequel on a installé une serre ancienne qui donne tout son attrait à cette roseraie. Ensuite, on a créé un jardin anglais de type romantique, avec tout un ensemble d'arbustes, de rosiers anciens et de plantes vivaces. Et ensuite, on a attaqué un autre jardin, qui est le jardin symbolique. Et ce jardin symbolique reprend une aquarelle d'Hildegard von Bingen, qui est une représentation symbolique des mondes. Et là, tout dernièrement, nous avons attaqué le quatrième jardin, qui est un jardin botanique, dans lequel on va retrouver beaucoup plus des plantes d'Asie. Alors pourquoi des jardins ? Essentiellement pour amener dans ce lieu une grande biodiversité. Et comme moi je suis pharmacien d'origine et que j'avais un diplôme de botanique et que j'avais dirigé une pépinière de plantes peu courantes, j'ai souhaité donc faire de ce lieu un lieu où on pouvait planter des végétaux originaires du monde entier et de par là montrer par l'exemple que ces végétaux qui sont peu connus peuvent être plantés dans notre région. Et surtout, en les associant, créer un nouveau biotope dans lequel on pourrait voir apparaître et ou maintenir des espèces d'insectes, etc. Alors inutile de vous dire que cet espace, bien sûr, nous utilisons très peu de pesticides ou très peu d'intrants chimiques, que nous pratiquons un compostage actif et que nous essayons justement par la manière de planter les végétaux d'assumer une gestion raisonnée de l'eau, par la manière de planter les végétaux dans une certaine proximité et de ne pas laisser la terre dégarnie en plantant des plantes vivaces. Alors, indépendamment de ces plantations, on a essayé d'orienter cela autour des plantes mellifères, et c'est pour cela que d'ailleurs nous avons maintenant des ruches dans le parc. Nous avons introduit des plantes sachant qu'elles permettaient d'alimenter un certain nombre de chenilles, donc d'assurer une biodiversité pour les papillons. Et nous avons planté aussi des arbustes à baies, de façon à assurer l'alimentation des oiseaux, surtout dans les périodes d'hiver. Alors, inutile de vous dire que nous avons des nichoirs, des ruches, Et nous avons pu, comme ça, voir présents dans ce parc des salamandres, toutes sortes de crapauds, une grande collection d'oiseaux. On n'a pas encore eu le temps de se rapprocher auprès de la EPO, la Ligue de protection des oiseaux, mais on a pu constater l'apparition des sauterelles, etc. Donc, au-delà de ce travail sur la biodiversité, on avait souhaité également, autour de ce projet, établir une architecture. Et dans l'architecture des jardins, ayant réfléchi à la question et en rapport avec des architectes, nous avons décidé de choisir pour une sorte d'architecture sacrée. C'est-à-dire que tout est planté au nombre d'or. Nous avons choisi des implantations, des formes, le carré, et pour les trois autres jardins, le cercle. Et pour la pépinière qui se situe dans un coin à l'est, on a choisi également de construire nos serres et de cultiver nos plantes justement autour d'un cercle. Et au-delà de ça, par la rencontre d'une amie, d'une bénévole du parc, qui est maître Feng Shui impérial, nous avons tenu des paramètres de Feng Shui, c'est-à-dire d'orientation, de forme et de couleur, de façon à faire apparaître dans ce parc une sensation d'harmonie, puisque les proportions sacrées, justement, depuis la nuit des temps, sont utilisées pour justement générer cette impression d'harmonie. Et à travers cette harmonie, faire en sorte que les visiteurs découvrent et partagent la beauté et découvrent la paix. Alors beauté, bien entendu, il y a les formes, il y a les couleurs, et puis il y a également les senteurs. Pour ça, par exemple, que la roseraie est plantée uniquement de rosiers parfumés, qui sont remontants, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils soient grimpants, c'est qu'ils refleurissent régulièrement, ce qui permet d'offrir aux visiteurs toutes les trois semaines à la fois les couleurs et le parfum.
Ce qu'on peut préciser quand même, que dans ce jardin, il n'y a pas de plan d'eau, il n'y a pas de bassin. C'est un jardin uniquement, je dirais pas sec, mais un jardin uniquement de terre et il n'y a pas de ruisseau non plus. C'est bien.
Alors,
ça.
Pour le moment, en effet, nous verrons que dans les projets d'aménagement, puisque au XIXe siècle, il y avait une pièce d'eau qui était asséchée, dans laquelle des arbres avaient poussé. Alors, par exemple, nous avons défriché, abattu les arbres, et nous avons déjà curé la pièce d'eau, qui fait quand même 12 mètres de large et pratiquement 3 mètres de profondeur.
Oui.
Et nous avons eu aussi un donateur qui nous a donné des pièces de pierre naturelle pour faire un bassin, dont les emplacements sont déjà préparés. Et voilà.
Donc là, vous avez un futur projet. On pourrait peut-être aborder maintenant vos activités, parce que vous êtes une association, mais le jardin est une chose, mais aussi la relation avec les hommes qui viennent vous voir, c'est quand même important.
Alors c'était aussi cela. Donc on avait à la fois un espace de biodiversité, une architecture pour le dessin des jardins, mais tout ça, et le propriétaire nous l'avait bien signalé, c'était avant tout de faire de ce lieu un lieu d'échange et de partage. Alors, cette propriété qui avait été fermée depuis, qui était privée depuis 1869, les derniers propriétaires étaient particulièrement isolés et tenaient pas surtout à ouvrir ce parc. Nous, la première chose qu'on a fait dès que les gros travaux ont été amorcés, ça a été d'ouvrir le jardin au public. Alors, modestement au début, parce que il fallait que les plantations prennent de la maturité. Et quand les jardins, les trois premiers jardins ont commencé à atteindre leur maturité, en plus de l'avoir ouvert au public, nous y avons créé une fête des plantes. Alors cette fête des plantes est un peu particulière, elle se veut être de taille modeste, en faisant venir des gens que nous connaissons bien, des amis qui sont des producteurs de plantes, et de façon à ce qu'on ait un échantillonnage, par exemple, un producteur d'iris, un producteur de pivoine, un producteur de plantes vivaces, un producteur d'arbres, un producteur de plantes de terre de bruyère, etc., et différents artisans autour du jardin. Et cet événement a lieu toujours les premiers week-ends de juin et les premiers week-ends d'octobre. Alors, bien entendu, l'entrée du parc est payante, elle est de 5 euros par personne. Mais à l'occasion de la fête des plantes, le tarif est inchangé. C'est-à-dire qu'on a la visite du parc, on a les exposants qui sont là, et tous les bénévoles, puisqu'on est assez nombreux, alors il y a ceux qui sont à la cuisine, ceux qui sont à la buvette, ceux qui sont à l'accueil, et particulièrement, on tient à la convivialité. Par exemple, les exposants pépiniéristes qui viennent de la France entière sont hébergés chez l'habitant dans le village, de façon à minimiser leurs frais de déplacement. Et puis la commune et le maire de Saint-Sauveur-Marville nous prêtent des chapiteaux ce qui nous permet le soir de faire à manger et d'inviter courtoisement tous nos exposants à partager. Et ce qui est justement un lieu d'échange d'expériences, de connaissances des végétaux, et qui va bien entendu dans l'orientation qu'on s'était donnée. En dehors de cela, et pendant les autres périodes, nous avons souhaité aussi ouvrir le parc, avec M. Coat et l'équipe de la direction du parc de la Clé, aux jeunes à handicap. Et pour cela, on s'est rapproché des IME de Dreux et de Vernouillet, et nous avons eu la joie de partager au printemps tous les mois des jeunes à handicap qui sont venus découvrir la nature, le jardin, et surtout planter un potager, semer des radis, des haricots. Et ils venaient tous les mois, et on leur a fait faire également des boutures de plantes. Et à la dernière fois, au mois de juin, ils ont pu emporter leurs radis, emporter chez eux, chez leurs parents, les boutures de plantes qu'ils avaient faites. Et croyez-moi, on a passé des moments merveilleux, et également avec les éducateurs qui sont en charge de les accompagner et qui sont des aides d'un dévouement absolu. Alors, à travers ce lieu d'échange et de partage, on a voulu également ouvrir le parc à des cours auprès du grand public pour apprendre à jardiner, apprendre à tailler les rosiers, les arbres fruitiers. Et l'accomplissement de cette démarche a fait que nous avons intéressé les compagnons du devoir, auxquels j'ai eu la chance de pouvoir participer en tant que formateur. Et nous avons tous les ans une session de compagnons du devoir, à peu près une vingtaine de jeunes, qui viennent dans ce parc découvrir les végétaux qui sont plantés, apprendre à les tailler, à les entretenir. Voilà, les expositions, en fait, tous les paramètres qui tournent autour du jardin. Et pareil, on se réunit en repas en commun, etc., et toujours dans la joie du partage. Alors, nous organisons, et là, c'est selon la météo, parfois des concerts. On a eu des clavecinistes, des flûtistes qui sont venus jouer dans le parc pour un public, tout public. Et le dernier point également, c'est que pour financer toutes nos actions, nous avons une petite pépinière de production de végétaux. En général, ce sont tous les végétaux qui sont présents dans le parc, c'est-à-dire plantes vivaces, rosiers anciens, rosiers anglais, des petits arbres, et qui nous permet de participer à quelques fêtes des plantes et de rapporter des fonds pour justement financer les salaires et les projets à venir.
C'est ce que vous appelez la pépinière orchidée.
Voilà, tout à fait, orchidée. Et on est connu d'ailleurs pour des collections botaniques. Par exemple, le parc de la Clé, il y a 150 hybrides différents, géranium vivace, une trentaine de viburnums différents. Enfin voilà, on s'amuse à faire des collections botaniques. Mais elles ont toujours un attrait. Le parfum, les feuillages persistants, elles sont toujours intégrées justement dans ce parcours. Et on a surtout souhaité faire qu'on montre que sur des latitudes similaires, dans le monde entier, des végétaux peuvent être conservés, parce que parfois ils disparaissent de leur biotope naturel, et ensuite de les bouturer, les diviser, les semer et de les répandre dans les jardins. Avec cette idée que les jardins de particuliers, c'est-à-dire les jardins privés, peuvent devenir vraiment des îlots de biodiversité, et indépendamment de cela, en tant que biodiversité, surtout permettre aux gens de se relier à la nature et au jardinage. Et dans une époque où on parle beaucoup de transhumanisme, on parle de l'homme se coupe un peu, j'allais dire, de ses racines, Le parc de la Clé entend essayer de perpétuer et de maintenir, ou de, si vous voulez, de stimuler justement un retour à la nature, à la connaissance de la terre, et surtout à la transmission des savoirs qui sont très anciens autour de cela.
Oui, on a pu remarquer en venant chez vous que vous aviez aussi des plantes de tous les continents.
Oui.
Et donc ça permet aussi la transmission entre les hommes à travers toutes ces plantes. Quoi.
On a par exemple un être de Patagonie, on a des plantes qui viennent du Japon, de Chine, du Caucase. Alors c'est un peu ludique pour nous parce que c'est aussi c'est de la joie finalement, c'est de la joie.
Mmh. Voilà. C'est de la joie si vous arrivez à les maintenir, à vivre avec, quoi, hein, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes climats que dans ces pays-là.
Alors, bien entendu, il y a une certaine connaissance, et c'est là aussi que, pour les jardiniers amateurs, hein, qui viennent là et qui ont leur propre jardin, justement, On les aide à comment préparer un sol. Par exemple, notre stagiaire Océane découvre, là en recomposant une plate-bande, tout le travail qu'on fait de préparation, de connaissance physico-chimique des sols, et comment assurer la pérennité d'un sol et de façon à nourrir les végétaux et qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles. Mais finalement, c'est assez universel. Hein.
Mmh. Oui, quelle que soit la culture, en fin de compte.
Voilà.
Alors, un petit mot quand même sur Océane, elle est stagiaire. Vous pouvez nous donner un petit peu votre parcours
parce que c'est quand même un peu particulier. Moi, j'ai fait un bac pro CGEA, donc c'est conduite et gestion d'une entreprise agricole. Donc ça n'a rien à voir avec le monde du jardinage ou autre. Et après, je me suis lancée dans un BTS de gestion et protection de la nature. C'est pour ça que là, je fais mon stage au parc de la Clé. Parce que après je voudrais faire éco-garde à cheval et que du coup j'avais besoin d'un stage dans la nature. Et quand j'ai trouvé le parc de Monsieur Pierre Rigaud, en fait je suis allée à la fête des plantes et quand je suis arrivée, je me suis sentie tout de suite bien. Et quand il m'a parlé de son parc, on voyait que c'était quelqu'un de passionné et tout ça. Donc bah j'ai voulu faire mon stage là-bas parce que bah c'était super la façon dont il en parlait, ce qu'il faisait et la manière de penser, ça m'a plu, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire mon stage ici.
Donc, vous avez choisi une voie au départ, puis après, vous vous êtes diversifié.
Oui, pour...
Et peut-être que ce parc vous permettra d'avoir d'autres idées.
Bah, ça élargit mes champs de compétences, quoi. Ouais. Je vais apprendre vraiment beaucoup de choses en peu de temps, quand même, mais ouais, je vais apprendre quand même pas mal de choses. C'est hyper diversifié et on apprend énormément.
Eh bien, si d'autres jeunes peuvent vous écouter, ça leur permettra les autres années de participer également à ces parcours.
Nous avons également un jardinier qui s'appelle Pierre Amaury Atri, qui est là maintenant depuis plus de 2 ans et qui est un contrat d'avenir, hein, c'est cela, je crois. Et donc, qui est arrivé là en sortant du lycée des Vaux, donc les apprentis d'Auteuil, et qui n'avait pas pu finaliser son bac horticole. Et donc, dans ce contrat d'avenir, il est venu s'insérer donc au parc de la Clé. Et voilà, on est très heureux de l'avoir parce que c'est un garçon passionné, qui s'est tout de suite investi, qui a très vite appris les plantes et qui, en plus, justement, avec Océane maintenant, est incapable de guider, d'aider et de faire découvrir et partager sa passion. Alors, nous avons... Également au parc de la Clé, des projets d'avenir.
Voilà, c'est ça.
Alors vous l'aviez déjà un peu voilà, abordé de façon anticipée. D'abord, bien entendu, la gestion raisonnée de l'eau, parce qu'on ne peut pas concevoir un espace de la biodiversité, de l'écologie à l'heure actuelle sans réfléchir à la gestion de l'eau avec les dérèglements climatiques. Alors, j'ai expliqué que la façon de planter les végétaux les uns près des autres, puis la façon de disposer les végétaux permettait de ne pas recourir à trop d'arrosage. Mais nous en avions quand même besoin pour la pépinière, donc nous avons la chance d'avoir un puits. Maintenant, nous allons concentrer les efforts financiers et notre effort pour justement assurer la distribution de l'eau dans le parc, restaurer la pièce d'eau qui était là anciennement, et puis en créer une nouvelle et faire que l'eau justement jaillisse dans le parc. On a déjà nous a donné des pierres anciennes pour faire une fontaine, les tracés sont déjà prévus, le maître Feng Shui a déjà composé les orientations, parce que l'eau dans un jardin, un endroit donné dans le Feng Shui a une importance et pourrait perturber justement ce sentiment de paix, d'harmonie qui est souhaité à l'origine.
Puis ça va vous apporter une autre diversité avec les poissons, avec les insectes d'eau, et puis les plantes aussi, les plantes aquatiques,
les plantes
etc.
Oui,
ça va.
Alors nous avons donc la restauration, et puis faire jaillir l'eau donc dans le parc de la Clé. On a également de nouvelles plantations, et puis nous avons un bâtiment dans le fond du jardin anglais que nous souhaiterions restaurer de façon à pouvoir installer une petite cuisine et une sorte de salon de thé, mettre des tables, de façon à ce que nos visiteurs, quand ils sont présents et qu'ils ont envie de prendre le temps, soit de lire, soit de rester sur place, puissent consommer thé, café, et puis voilà. Et parfaire finalement l'endroit du projet.
Voilà, le bien-être de l'ensemble du parc.
Et peut-être pour conclure, donc vous avez compris, l'association Le Parc de la Clé, c'est un lieu ouvert, un lieu d'échange et de partage, aussi bien pour les jardiniers amateurs que pour les amoureux du jardin, que nous sommes d'ailleurs dans l'association. Et nous souhaitons bien évidemment que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Avec mes remerciements d'ailleurs pour les bénévoles, pour tous les visiteurs qui nous ont fait l'honneur de partager ce lieu et qui ressortent tous, on peut le dire, épanouis, heureux d'avoir eu ce moment de paix partagé. Et bien entendu à vous, la Radio Grand Ciel, qui nous permettait de nous exprimer à tous vos auditeurs.
Bah écoutez, nous on vous remercie d'être venu parce que c'est à vous de bien présenter votre association. Et puis, vous êtes entouré de murs, donc même quand on passe dans la rue, on ne vous voit pas. Hein, donc il ne faut pas que nos auditrices et nos auditeurs hésitent à venir vous voir. Hein, et puis on leur souhaite une bonne promenade, surtout que bientôt il y a le printemps en compagnie des plantes à fleurs. Des plantes en fleurs de toutes les couleurs, et donc ça vous permettra de faire la connaissance d'un public nouveau.
Et puis il y a aussi des hôtes dans ce parc, hein, puisque nous avons des poules en liberté, voilà, des oies qui ne sont pas toujours très accueillantes, des pintades, les dindons, enfin là, les dindons sont partis, il faut qu'on y remette, mais on avait également pas mal de dindons et des pintades qui couraient dans les bosquets. Voilà.
Alors sinon, vous avez souffert, là, avec des hivers différents, d'une année sur l'autre, avec la sécheresse, etc. Ça vous a posé
alors,
des problèmes?
Il y a, quand est-ce, 5 ans ou 6 ans, on a eu moins 20, moins 24, là-bas au parc de la Clé. Alors, et curieusement, nous avons des plantes, même de Corse, puisqu'on a ce qu'on appelle des cistes, qui sont des plantes de la famille des rosacées, qui poussent en Corse, vous voyez, sur le poteau méditerranéen. Et très particulièrement, les végétaux un peu sensibles ont très bien résisté. Et là, c'était les rosiers, cette année-là, qui ont beaucoup souffert parce que le froid était arrivé en janvier après un mois de décembre très doux et que les végétaux avaient grillé. Alors, indépendamment, les rosiers buissons, ils font quand même 1,50 m, 1 m de large. On a été obligé de les rabattre à la souche. Mmh. Et puis, toutes les productions de la pépinière, qui est la façon de financer une partie de notre projet, avait gelé. On a perdu à peu près à moitié les deux tiers de stock de végétaux contenus en pot, et même dans les tunnels, qui n'étaient pas chauffés, on a eu un hiver rigoureux. La sécheresse, on a eu il y a 2 ans, grosse période de sécheresse. On soutient en observant les végétaux, on arrose un petit peu, c'est-à-dire qu'on arrose peu. On arrose longtemps, de façon, vous voyez, à ce que l'eau descende profondément, et ensuite on essaye d'arroser le moins possible. Parce qu'on a du paillage, on a plein de systèmes qui permettent d'éviter cela. Mmh. Mais il n'empêche que quand on a frôlé, je crois, les 42 ou 43 degrés, etc., le parc était moins beau, les fleurs étaient fanées, et il fallait quand même être vigilant.
Mmh. Oui, alors on a découvert aussi une chose que l'on ne connaissait pas trop bien, c'est que vous avez un catalogue de l'Eure-et-Loire qui permet de connaître un petit peu l'état des sols pour planter telle ou telle plante. C'est un livre qui a été fait. Oui,
du répertoire. Voilà, c'est un. C'est il existe sur le territoire de Eure-et-Loir, puisque nous sommes Eure-et-Liens, un livre qui a été édité par le Muséum d'Histoire Naturelle, qui est le référencement de toutes les espèces sauvages et endémiques de l'Eure-et-Loir et leur répartition dans le département. Donc, pour les passionnés de plantes, c'est riche. Voilà.
Oui, et ça a été fait dans tous les départements ou
non,
principalement
c'est spécifiquement dans l'Eure-et-Loire.
Ah, donc il faut quand même bien le signaler. Parce
voilà,
que
alors c'est... on a, par exemple, pour les orchidées sauvages, les euphrises, tout ça, une localisation dans le pays de Rouet en particulier, etc. Et c'est très utile. Alors c'est à mettre à jour, et puis on y retrouve aussi des espèces invasives venues de l'étranger qui se sont naturalisées dans nos campagnes.
Ah. Donc on signale également le site qui est leparcdelaclé.fr.
Alors en effet, sur ce site, vous avez les différentes activités bien sûr du parc, un lien mail pour éventuellement entrer en contact, un numéro de téléphone bien sûr. Et afin que vous connaissiez les horaires d'ouverture, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h à 19h. Et sur les week-ends, c'est sur rendez-vous. Principalement parce que nous vendons nos plantes dans des fêtes des plantes les samedis et dimanches. C'est pour ça que nous ne pouvons pas assurer, mais des bénévoles, en fonction des engagements pris, sont là pour qu'ils connaissent le lieu, pour animer le lieu pendant notre absence.
Et il faut préciser que c'est gratuit pour les enfants.
Oui.
Et que les animaux de compagnie sont acceptés, tenus en liesse.
Voilà.
Bien, ben écoutez, merci. Et pour terminer, eh bien, on s'est mis d'accord sur une musique. Hein. On va vous proposer l'Allegro du printemps d'Antonio Vivaldi. Et à bientôt, au mois prochain.
Merci pour votre écoute et merci pour votre accueil.
Merci.